ne fera pas de mal. Et la saison estivale, bien, en plus, sont pleins à Vranovnadi, petite commune située au cœur de la Moravie du Sud et qui est sur l'itinéraire de Sonia Jarochova aujourd'hui. Alors, elle va vous faire visiter son imposant château baroque qui domine d'un rocher abrupt la vallée du parc national de Podilly. Et elle va traverser à la nage ou en bateau le lac de barrage scintillant au soleil, puis découvrir l'œuvre hydraulique la plus importante de son temps et qui, depuis quelque temps, ouvre ses entrailles au public.
Vous avez dit la République tchèque? Voyagez donc.
Avant d'arriver à Vranov, nous nous arrêtons au bord de la route pour acheter un panier d'abricots. Récoltés dans les vergers avoisinants, ils sont vendus avec un supplément de cornichons de Znojmo, ville située à une vingtaine de kilomètres. Nous remontons ensuite le cours de la Taïa, qui se dit « Die » en tchèque, et qui forme à cet endroit une frontière naturelle avec l'Autriche. La route descend alors en lacet dans la vallée, et c'est à ce moment-là que nous voyons se dresser, sur une falaise en face de nous, un château baroque de qualité architectonique extraordinaire. Sa somptueuse silhouette rappelle d'ailleurs le puissant château fort médiéval qui a occupé sa place jusqu'à un incendie dévastateur de 1665. Qui plus est, le château de Vranov n'est pas moins resplendissant de l'intérieur, comme nous en témoignent les Français Domitille de Monico et le père Antoine de Monico à la sortie d'une visite guidée.
Je suis épatée parce que je trouve qu'il y a beaucoup de salons à visiter encore, alors que souvent dans les châteaux, on ne voit plus que 2-3 salles et puis après c'est fini. Très meublé, des jolis meubles. Il y en a bien quelques-uns que j'aurais gardé pour moi. Là, je suis très bien avec goût et varié.
Les meubles réalisés par Madame Vigée-Lebrun. Je ne savais pas qu'elle était venue ici. À Vranov.
Ouais, ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est vraiment une découverte extraordinaire. Là, j'ai trouvé la visite très intéressante. Voilà. Très bon état. Le château est en très, très bon état. La chapelle, elle est vraiment mignonne. Vraiment très mignonne. Je suis épatée par l'état de conservation du château. On voit que c'est un château qui vit, dans lequel les gens ont vécu, et très bien entretenu. Toutes les pièces sont différentes. Une certaine recherche. Non, c'était une très belle visite.
En effet, dès son entrée dans la splendide salle des ancêtres, construite à la fin du XVIIe siècle à la gloire de la dynastie des comtes d'Altan, le visiteur s'engouffre dans une autre dimension temporelle. Le couvert et le service de faïence sont disposés sur les tables à manger ou dans les salons de thé. Les tableaux de peinture, gravure ou de broderie sont suspendus aux murs richement décorés de tissus peints. On rencontre aussi un lit invitant à faire une sieste ou encore un bain, ingénieux et doté de robinets à eau chaude et d'un bouchon pour évacuer l'eau. Ainsi, d'une salle à l'autre, on a vite l'impression de voyager dans le temps et d'être invité chez de nobles aristocrates plutôt que de suivre un guide. Toutefois, ces Français rencontrés dans la cour d'honneur à l'entrée du château n'étaient pas venus par hasard.
Donc en fait, on vient un peu en pèlerinage sur les traces de nos arrière-grands-parents. Notre arrière-grand-père était directeur de la faïencerie de Vranov. Voilà. Et il est venu, il était également intendant du comte Nisek, qui possédait le château de Vranov. On est un groupe de cousins, avec un cousin prêtre, qui a organisé ça pour venir un peu et nous faire connaître à nous, la jeune génération, qui ne connaissions pas cette histoire, de cette partie de l'histoire de la famille. Cette histoire un peu spéciale de ce grand-père français qui est venu épouser à Vranov une Tchèque qui était d'une famille française qui était venue à Vranov à la Révolution française, qui était partie de France en 1790. Et après, la famille est restée là, s'est installée à Vranov. Mon arrière-grand-père, en 1903, a épousé Hermine Dubail, dont la famille habitait Vranov, et dont le père était directeur de la faïencerie de Vranov. Après, ils sont revenus en France, et elle avait que des sœurs qui étaient religieuses, donc en fait, il n'y a plus de descendants ici.
Une filiation française plutôt surprenante dans cette ancienne seigneurie sous l'influence des Habsbourg autrichiens. Pourtant, c'est bien un Français qui a contribué de manière tout à fait significative à l'essor de Vranov. Peintre, graveur et manager, dirait-on aujourd'hui, Joseph Doré était, entre 1863 et 1878, le directeur de la fameuse fabrique céramique de Vranov. Fondée en 1799, celle-ci jouait pendant plus de 80 ans le rôle de l'entreprise industrielle la plus grande de toute la région, ses produits faisant la gloire des céramistes locaux dans l'Europe entière, de Londres à Istanbul. Sans avoir de lien quelconque avec un autre Doré très connu en France, prénommé Gustave, le très habile paysagiste Joseph Doré perfectionna la production en introduisant la méthode de décoration de la faïence fine à l'aide de l'imprimerie. Mais comment ce dernier s'est-il retrouvé à Vranov? Pour cela, il faut remonter à la fin du XVIIIe siècle. Le comte polonais Stanisław Mniszek, futur propriétaire du domaine dès 1799, avait acquis, en bon aristocrate centre-européen, son éducation en France. Nous écoutons Émeric et Antoine de Monico.
Alors, en fait, le comte Mniszek était en classe à Nancy, au collège impérial à Nancy, avec notre ancêtre Doré. Et quand il est retourné, il a fait venir son ami pour être son homme de, un homme d'affaires. Là, et il a été également, comme il parlait français, il a appris le français à ses enfants. Mais à l'origine, c'était plus pour être son homme d'affaires, pour travailler avec lui, pour gérer ses propriétés.
Ils sont partis parce qu'ils étaient camarades de collège. Donc il l'a invité au moment où il y a eu les événements de la Révolution française. Il l'a invité. Et lorsqu'il s'est trouvé à Vranov, il était un peu ennuyé parce que ça faisait une différence sociale. Il y avait une différence sociale entre lui, qui était prince ou comte, et le père de Joseph Doré. Et alors, il lui a donné comme charge d'être précepteur de ses enfants. Donc ça rétablissait une relation sociale correspondant à la réalité.
La visite du château terminée et sous les coups de midi, l'heure est au déplacement, à pied, en voiture ou à vélo, du côté du lac. Les vacanciers en tongs avec une serviette autour du cou vous indiqueront le chemin de la promenade qui s'ouvre avec le pont du barrage et qui longe l'eau, bordée d'une multitude de restaurants, glaciers et stands avec des classiques du fast-food tchèque tels que le langoche ou le fromage pané frit, le tout accompagné d'une bière ou encore mieux, d'une zanka, marque de limonade traditionnelle morave. Le lac est accessible à de très nombreux endroits pour qui veut piquer une tête, faire un tour en pédalo ou en voilier, les bateaux étant à louer du côté de la Vranovska plage, la plage de Vranov. En effet, depuis la construction du barrage au début des années 30, le lac est un haut lieu du tourisme nautique.
Doporučila bych vám tradiční lodní dopravu s loděma Vranov a Die. Můžete jít v pravidelných intervalech na Bitov.
Au cours du siècle dernier, les bateaux à vapeur transportaient les vacanciers en croisière pour leur faire admirer la beauté du paysage, appartenant désormais au parc national de Podilly. Comme nous l'indique avec son sympathique accent morave Kristina Zaitsova de la compagnie offrant depuis quelque temps de nouveau des croisières sur la Přehrada, deux répliques des bateaux traditionnels nommés Vranov et Die lèvent l'ancre à des intervalles réguliers pour un grand ou pour un petit tour du lac, le grand allant jusqu'au château de Bitov. Les bicyclettes, chiens et autres équipements de villégiature sont les bienvenus à bord. Le dernier endroit qui ne devrait pas passer inaperçu est la centrale hydraulique de Vranov. Accolée au barrage à une profondeur vertigineuse si l'on regarde d'en haut, les travaux de sa construction ont débuté en mars 1930. Un chantier titanesque à l'époque puisque plus de 2000 personnes avaient travaillé pendant 3 ans et demi à l'édification de ce barrage haut de 54 mètres. La centrale, mise en service en automne 1934, a été l'œuvre hydraulique la plus grande et la plus puissante sur l'ensemble du territoire tchécoslovaque.
Takže zde se nacházíme ve třetí komoře. Dá se říct u nejstarší turbiny, jak už jsem se nahoře zmínil, tak je to turbina z 33. roku, která byla osazena jako první.
Bien qu'un peu difficile d'accès car mal indiquée dans la ville, la centrale est depuis 2011 ouverte au public. Des visites guidées gratuites sont organisées toutes les heures de 9h à 16h et présentent de manière claire et structurée tous les aspects techniques de la production de l'énergie hydraulique ainsi que du fonctionnement de la centrale qui fête cette année le 80e anniversaire depuis son ouverture. Vranovnadi fait partie de ces rares destinations touristiques où il y en a quasiment pour tous les goûts. Les amateurs d'art, de culture et d'histoire seront enchantés par le riche programme d'expositions et de concerts qui se tiennent au château. Les sportifs peuvent enfourcher les vélos, enfiler les maillots de bain et s'entraîner tranquillement pour la prochaine compétition d'Ironman. Et la bronzette paresseuse au bord de l'eau est également possible pour tous ceux qui demandent à se reposer. Par contre, n'attendez pas l'hiver pour revenir. La saison s'achève en septembre.